fondateur de la réputée marque canadienne Paradigm. Maison Adam vous offre des conseils personnalisés en magasin, en ligne et par téléphone avec la livraison gratuite et le service d'installation sur rendez-vous.
Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.
Plongez dans 888casino.net. Conçu pour jouir des machines à sous primées. Pour découvrir un monde de plaisir. C'est fait pour divertir. Pour se délecter de la roulette. Super!
C'est juste pour jouer.
Ouais, ça marche! 888casino.net. Fait pour jouer.
19 plus. Jeu gratuit uniquement. Jouer de façon responsable.
Oh, on a-tu bien fait de faire affaire avec Expert pour notre thermopompe Daikin?
Mais, hein? As-tu vu ça? C'est cool. En plus, là, je contrôle le thermostat avec mon cellulaire.
Ah oui?
Oui, j'ai tout programmé nos heures d'avance. Regarde, chaque zone de la maison a sa propre programmation. Regarde mon téléphone, là.
Ah oui, mon temps va... C'est qui, ça, Caroline?
Hein? En ce moment, combinez financement avantageux avec rabais et subventions.
Ici Martin Ma. Avec son programme imbattable, Maxi égale les bas prix des autres épiceries sur présentation d'une preuve. Donc, techniquement, leurs bas prix sont aussi nos bas prix. Alors cette semaine, leur pub dans votre tête devrait sonner comme ça.
C'est les prix fou 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 chez Maxi. Profitez de bas prix sur les fruits et légumes croquants partout chez
Maxi.
Sans oublier nos délicieuses coupes de viande. Pour de la qualité à bas prix,
Maxi,
c'est la place.
Ben oui, Maxi. Imbattable.
Les conditions s'appliquent, détails en magasin. Yeah.
Pièces d'auto économiques, c'est 9 magasins pour vous servir avec le meilleur rapport qualité-service de l'industrie. Économisez gros avec nos disques de frein BrakeMax offerts à 10 % ou nos plaquettes de frein Bosch à 15 % de rabais. Et vous épargnez 15 % sur les essuie-glaces Bosch Clear Advantage. L'hiver approche, n'attendez pas à la dernière minute pour entretenir votre véhicule. Pièces d'auto économiques, 9 magasins, 5 centres de distribution et un site transactionnel. Pièces économiques.
Le show du matin. Weekend.
C'est aphrodisiaque pour moi.
Avec Carbo.
Ça n'a pas de bon sens.
Samedi et dimanche, 6h.
Radio X.
Présenté par Silencieux Proto.
Votre voiture fait du bruit? Silencieux Proto évalue votre véhicule sans frais, répare et fabrique vos systèmes d'échappement sans rendez-vous. Silencieux Proto à Québec et Lévis.
Choix.
Choix.
98.
98.
1. Choix.
Choix.
Radio X. À Québec, c'est Radio X.
Choix. Radio X.
Faites-vous.
Faites-vous.
Votre propre opinion.
Oh my gosh. We're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west.
Radio X. Files.
Avec Christian Page.
Oh my gosh.
Radio X.
The existence of spirits is not so much a question of belief, it's a matter of evidence.
My whole dream of this new house, this wonderful neighborhood has just been shattered, and I just didn't feel safe anymore.
Either I'm going mad or something's happening that I can't explain. Night after night, I mean, it was constant. The breezes, the moving objects, the voices. Something happened in that room. And we were the ones that triggered it.
I said, there's something in this house. There's something evil here.
Bienvenue dans les Radio X-Files en ce vendredi soir avec Christian Page et moi-même, Nick Cloutier. Bonsoir, Christian Page.
Bonsoir.
Bon vendredi.
Oui.
Donc, l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de la nouvelle série qui s'appelle True Haunting, qui est sur Netflix. Et c'est le premier sujet dont on va parler ce soir.
Oui, effectivement, parce que, bon, la série nouvelle, ça attire toujours beaucoup de téléspectateurs, les nouvelles plateformes, Netflix, entre autres. Et puis, c'est vrai qu'une multiplication d'émissions un peu OVNI, Fantôme et tout le reste sur à peu près toutes les plateformes, que ce soit Disney+, que ce soit Netflix et autres. Là. Et bon, donc, cette série a pris l'affiche il y a quelques... Bon, je pense que c'était le 7 octobre dernier. Donc, c'est une série de... En fait, c'est une première saison. On nous annonce déjà qu'il y aura une deuxième et possiblement d'autres saisons subséquentes. Cette première saison, elle est composée de 5 épisodes, donc 5 volets d'à peu près 1 heure. Et on y couvre 2 histoires. Donc la première histoire, qui s'appelle Harry Hall, elle s'étend sur 3 volets. Et la seconde, qui s'intitule The House That Murdered Me, elle s'étend sur 2 volets. Donc, ce sont des histoires de hantise. Hein, dans le premier cas, par exemple, Harry Hall, elle raconte l'histoire d'un certain Chris DeCesare, qui était inscrit à l'Université de New York, là, au campus Geneseo. Et à partir de janvier 1985, lui et d'autres de ses amis dans le dortoir ont commencé à vivre des phénomènes étranges, mais les phénomènes semblaient surtout axés vers lui. Donc, il entendait des voix et tout le reste, un peu comme si un fantôme s'était accroché à lui. Et puis, donc, on nous raconte ça sur 3 épisodes. Il faut dire que ce Chris DeCesare a écrit également un ouvrage qui s'appelle « The Ghost Boy of Harry Hall », un ouvrage qui a été publié en 2025, donc qui est tout récent, où il raconte ses aventures. Donc, on ne fait à peu près qu'une adaptation. Et dans la deuxième histoire, donc, qui, elle, s'étire sur 2 volets, « This House Murdered Me », ben, c'est l'histoire d'une certaine April Miller qui a acheté une maison avec son mari, son fils. Et là, ils ont commencé à vivre une grande maison victorienne. On commençait à vivre des phénomènes étranges et mystérieux à travers de cette maison-là. Et puis, bon, éventuellement, ils vont contacter le couple Ed et Lauren Warren, qui sont des démonologues dont les histoires ont beaucoup inspiré les films de Conjuring.
Oui, OK.
Et donc, pour les appeler. Donc, grosso modo, c'est les 2 histoires qu'on présente. Je parlerai pas trop du contenu parce que je veux pas gâcher le plaisir des gens qui ont pas vu la série, qui voudraient la regarder. La série, elle est disponible en français. Là, si vous êtes sur Netflix, elle est disponible en français. Moi, mon commentaire, parce que bon, les gens, mais qu'est-ce que vous en pensez? Ben, techniquement parlant, on réinvente pas la roue ici. Les histoires sont présentées exactement comme moi je le faisais un peu dans Dossier Mystère ou d'autres séries. Là, je parle de moi, mais il y a plein d'autres séries qui ont été construites sur la même recette. Et c'est se contenter simplement de présenter les faits. Donc, on fait pas une grande investigation. On n'essaie pas de trouver des explications de nature rationnelle. On a les témoins, donc les gens qui étaient là, qui ont perçu, hein, c'est leur réalité, c'est leur histoire à eux. Ils la racontent, on leur donne l'espace pour le raconter. Et on se limite à faire des reconstitutions à partir de ces témoignages. Donc, somme toute, c'est bien. Là, tu sais, je veux dire, si on est là pour regarder ces histoires-là avec une espèce d'œil de divertissement, on ne cherche pas à aller au-delà du récit pour essayer de trouver des explications d'ordre rationnel, ben, je pense que ça fait, pour utiliser l'expression, là, ça fait la job. Donc, on voit ça, puis ça nous divertit. Moi, personnellement, l'élément qui m'a peut-être le plus agressé dans ces 2 histoires-là, c'est que, bon, le réalisateur, c'est James Wan. James Wan qui également a produit des films, et également scénariste. Et c'est notamment lui qui a produit des films, en fait, les 2 premiers films, La Conjuration 1, La Conjuration 2, il est également le scénariste sur La Conjuration 3. Donc, c'est un type qui a récupéré un peu l'histoire des Warren, et parce que, bon, les films La Conjuration, faut-il le rappeler, c'est basé sur les soi-disant enquêtes du couple Warren. J'en ai déjà parlé à l'émission, mais bon, pour les gens qui se joignent à nous puis qui ont peut-être pas suivi ces émissions dans le passé, le couple Warren, rappelons-le, c'est dans le milieu des années 50 à peu près, c'est un homme et une femme elle se dit médium, lui démonologue. Ils vont, c'est un couple dans la ville, entendons-nous, et ils vont créer une petite société de soi-disant recherche parapsychique, là. Eux habitent Monroe, Connecticut. En fait, c'est un nom d'organisation, mais l'organisation, c'est à peu près eux tout seuls. De temps en temps, ils auront des collaborateurs, mais grosso modo, c'est surtout eux, le couple Ed et Lauren Warren. Et moi, pour les avoir rencontrés à quelques reprises, je te dirais, bon, je pèse mes mots, je veux pas être méchant, mais c'est quand même des gens qui étaient un peu des bigots, là, des gens qui étaient excessivement embrigadés dans la religion, ils croyaient tout le temps une Bible à la main. Et je me plaisais souvent à faire des blagues en disant, quand les Warren sortaient de la Warren Cave à bord de la Warren Mobile, c'était toujours pour aller combattre les super-vilains. Hein? Bon, c'est des super-héros, c'est le dynamique tandem. Donc, quand ils sortaient, c'était... Tu peux être sûr qu'une enquête des Warren... C'était, puis là, enquête, c'est pour utiliser, pour être poli, là. Mais une enquête des Warren, t'es sûr que ça se terminait jamais avec un petit esprit là, du voisin décédé sur place qui se manifeste.
Le démon, c'est, constamment.
C'est toujours le démon, le Satan, c'est toujours la pire affaire. Là. Et là, bien évidemment, les Warren, avec toujours brandissant leur Bible, l'eau bénite, puis on réclame des exorcismes à tour de bras, ils étaient associés avec différents prêtres qui étaient un peu dissidents de l'Église catholique, parce qu'il faut savoir que dans l'Église catholique, le rituel de l'exorcisme ne peut être effectué qu'en suivant certaines règles qui remontent aux plus hautes instances du diocèse, avec l'autorisation de l'évêque et tout le reste. Dans le cas des Warren, on n'est jamais dans cet univers-là. C'est-à-dire que les Warren ont pratiquement dans leur poche trois ou quatre prêtres exorcistes qui appartiennent à des églises dissidentes, puis ces gens-là, n'hésitent jamais à faire des exorcismes. Bon, et comme les films La Conjuration, qui ont quand même fait un peu, il faut l'avouer, ils ont fait la fortune de James Wan, parce que ça reste quand même d'assez bons films d'horreur pour ceux qui aiment le genre, si on se limite essentiellement au divertissement, donc ça fait quand même bien la job. Donc on comprend que James Wan veut un peu protéger sa source, donc il ne présentera pas les Warren comme étant des gens mal intentionnés ou quoi que ce soit. Et dans les deux histoires qu'il a choisi de présenter dans cette série True Hunting, c'est deux histoires dans lesquelles les Warren interviennent. Bon, dans la première version, dans la première histoire, Eerie Hall, ils ne font qu'un petit une apparition caméo. Là, à un moment donné, on nous dit que, alors que les étudiants, incluant le Chris de Cesare, sont témoins de phénomènes mystérieux, il va y avoir à l'université une présentation, une conférence qui est tenue par les Warren et les étudiants vont assister à ça et Chris de Cesare et ses amis vont dire « Ouais, ben voilà, ces gens-là nous donnent un peu des indices pour essayer de documenter notre expérience. Bon, et on va aller dans ce sens-là. » Donc, les Warren ne sont pas forcément mis en vedette. Il y a une petite mention caméo. On les voit davantage. Il y a un rôle plus actif dans la deuxième histoire. Mais ça m'agace un peu parce que c'est toujours d'une façon de présenter les Warren comme étant... Même lorsque, dans la première histoire, ils n'ont qu'un petit espace caméo. Ils sont décrits comme un couple de super enquêteurs, fabuleux, merveilleux, extraordinaires. Tu sais, bon, c'est la meilleure affaire qui est jamais arrivée. Ouais, des super. La meilleure affaire qui est jamais arrivée depuis le pain tranché. Là, tu sais, là. Alors que les Warren, beaucoup les qualifient d'escrocs. Moi, je serais plus prudent. Les Warren ne m'apparaissent pas. Ils le sont un peu, là, quelque part. Mais j'aurais tendance, si je devais un peu faire une définition des Warren, je les décrirais plutôt comme des entrepreneurs. Hein, c'est des gens qui sentent la bonne affaire. Ils n'inventent pas les histoires. Hein, je veux dire, des gens les appellent, puis ils lui disent « Bon, j'ai une maison hantée. » Lorsque les Warren débarquent, ils vont profiter de ces gens-là. Ils vont profiter de leur histoire pour créer une nouvelle histoire, la rendre au superlatif, là, tu comprends? Et à partir de là, bien évidemment, ils vont capitaliser là-dessus, ils vont écrire des livres, faire des films, etc. Donc, ils exploitent un récit qui est déjà là, qui est déjà existant, et qui souvent pourrait être expliqué par des trucs assez banals. Tu sais, il y a des histoires de fantômes évoquées par les Warren qui m'apparaissent être un simple courant d'air, ou des gens qui souffraient un peu de troubles psychologiques ou d'une sensibilité là, un peu discutable. Et là, tout d'un coup, les Warren arrivent et ça devient ce petit claquement, ce petit coup dans le mur devient soudainement des messages du démon. C'est bon, OK. Fait que c'est plutôt dans ce sens-là que moi, je les perçois à des entrepreneurs qui n'ont pour objectif que de faire du fric. Là, et tout le reste, bon, bien, évidemment, on y croit ou on n'y croit pas. Et ça, c'est un peu l'élément qui m'agace un peu. C'est toujours ils introduisent dans ces deux histoires-là les Warren, alors que les Warren, au contraire, ne devraient pas être un élément qui nous attire, mais plutôt un élément qui nous rebute. Moi, je dois t'avouer que quand j'entends parler d'une histoire, puis on me semble, « Oh, il y a le couple Ed et Warren et Lorraine Warren dans cette histoire-là. » Pour moi, le livre vient de se fermer. Parce que je suis sûr que l'information qui m'est proposée, elle a été falsifiée. Les Warren étaient des maîtres pour transformer les histoires et les rendre au superlatif. Donc, c'est pas à travers ça qu'on va avoir une vision claire et précise d'un événement à caractère surnaturel. Les Warren, ce sont des amplificateurs. Donc ça, ça m'a agacé un peu, mais pour le reste, écoute, si les gens veulent se divertir, des gens qui sont intéressés par des histoires de fantômes, etc., ben, ce sont deux bonnes histoires de fantômes. La première est plus intéressante, parce que je comprends pourquoi on l'a tirée sur 3 épisodes. Peut-être un peu long, à mon avis. Là. Il y a peut-être des bouts qui deviennent redondants. Mais néanmoins, ce sont des histoires qui sont présentées honnêtement, comme plein d'autres séries du même genre où on raconte essentiellement le témoignage. On ne va pas dans la tentative d'explication, on fait preuve d'aucun esprit critique. C'est essentiellement de nous raconter les faits, comme moi-même je l'ai fait dans Dossier Mystère. Quand j'avais le mandat, quand j'ai proposé à Canal D de refaire Dossier Mystère, c'était il y a 25 ans maintenant, on change rien, on réinvente pas la roue. Mm-hmm. Là, c'est la même, c'est la formule exploitée par les Américains. Là. Des gens arrivent et nous disent, bon, j'ai vu un OVNI, puis là, ils nous racontent leur histoire d'OVNI, puis on la met en image. Et ça sert de divertissement. Donc, et
à ce niveau-là... Ça, prend le témoignage, puis on le met en image, puis, pas mal ça.
On le met en image, un point c'est tout, puis bon, les gens, ils croient ou ils croient pas. Donc, c'est ce qui est présenté ici dans True Hunting, avec des moyens supérieurs, il y a des éléments qui sont très efficaces. On voit que James Wan n'en est pas à sa première réalisation de films d'horreur ou de fantômes. Il y a des éléments qui sont particulièrement bien réussis. Mais bon, donc, mon opinion générale, sur True Hunting, c'est une série de divertissements intéressantes qui n'apporte rien de plus ou rien de moins et qui se laisse regarder. Voilà. Seule chose, mon seul bémol, c'est bien sûr l'introduction du couple Warren dans les deux histoires. Ça, c'est toujours à prendre un peu avec un bémol.
Donc, à regarder avec pour se divertir, voilà. Mais c'est quand même basé sur des témoignages d'histoires qu'on qualifie d'histoires vraies. Reste à...
Voilà.
Vous ferez votre propre opinion, voilà.
Voilà, ben, tout à fait, tout à fait. Fait que, bon... Fait qu'écoute, puisqu'on est dans l'histoire des fantômes...
Oui.
Hein, restons avec une histoire de fantômes.
Ah oui, une qui est des plus fascinantes, d'ailleurs.
Histoire de fantômes, ben, ça va faire plaisir aux gens de Québec.
Oui. Hein? Oui, il y a deux histoires, Christian, à Québec qui me fascinent. Celle-là, de la Dame Blanche, entre autres. Oui. Et celle qui s'est déroulée à Beauport, dans une espèce de multilogement où.
Oui, j'y étais.
Ah, ça, c'est complètement fou.
C'était à l'été de 1989, de mémoire. Ouais, c'était les dernières semaines du mois de juillet. Et c'était un appartement avec 4 logements. Hein. On avait Mme Sans-Chagrin, Mme Cochrane qui habitait en bas, et puis il y avait 2 appartements en haut, puis c'était le mur mitoyen au centre, en fait, qui coupait l'édifice en deux, littéralement, le côté gauche et le côté droit. C'était ce mur mitoyen qui cognait. Et puis bon, on avait... il y a eu toute la batterie, on a fait venir les gens de gaz métropolitain, on a fait venir des inspecteurs en bâtiment, et à un moment donné... Moi, j'y suis allé avec un type qui s'appelait Gaston Dubé à l'époque, de mémoire, là. Écoute, okay. C'est loin, là.
Ah oui, ça fait
1989,
longtemps,
ouais. Là. Mais le type, c'était Gaston Dubé. Il travaillait pour la ville de Beauport. C'était un inspecteur en bâtiment. Et donc, à ce moment-là, il y avait déjà... Les manifestations étaient déjà en cours depuis à peu près 2 semaines. Et là, bon, on avait toutes les explications qui étaient possibles. On avait d'un côté les gens qui disaient que c'était un fantôme, un poltergeist, et d'autres qui disaient « Ah, ça doit être la chaleur, ça doit être... Il doit y avoir des explications plus rationnelles. » Et une des explications qui revenait souvent, c'était le tassement de sol. Le tassement de sol, on nous disait « Ben, cet été-là... » C'est amusant parce que c'est après coup, hein, quand des gens, des mois après, essayaient de trouver des explications rationnelles, ils ont dit « Ben, l'été 89 a été un été particulièrement chaud à Québec. Est-ce que le ça, puis il n'y a pas eu beaucoup de pluie. Est-ce que ça aurait pu créer un tassement de sol? Et ce tassement de sol, bien, provoqué, la maison aurait joué, là, quelque part, là, elle aurait travaillé, hein? Puis là, c'est là qu'on aurait entendu des espèces de claquements dans la cloison du sang. C'est quand même étonnant parce qu'il n'y avait que ce mur-là, hein? faut que je le rappelle bien, là. Il n'y avait que le mur central, là, le mur mitoyen qui cognait. Il y a, dans l'histoire, à un moment donné, un mur de placo-plate qui a été défoncé, mais qui a été défoncé de l'extérieur. Et je veux pas pointer du doigt personne, mais Mme Cochrane avait 2 adolescentes, et je pense que les 2 adolescentes trouvaient ça assez amusant, tout l'intérêt qu'on avait autour de la maison. Fait que le fameux mur en placo-plate, là, si c'était le fantôme ou c'était la même source qui frappait dans le mur mitoyen, ben cette journée-là, elle a fait une escapade vers un autre mur.
Ah bon.
Disons ça comme ça. Mais... Quand le mur cognait, à un moment donné, là, la ville avait été informée et M. Dubé avait été chargé d'aller inspecter le bâtiment. Mais en fait, c'était lui qui allait déterminer si ou non le bâtiment allait être évacué. Et on essayait de trouver des explications. Puis là, ben, comme j'en reviens à l'histoire du tassement de sol, parce que je veux régler ce problème-là, le tassement de sol, la chaleur, beaucoup de sceptiques ont prétendu ça. J'ai fait sortir, à ce moment-là, moi, j'y étais, là. Hein, j'étais sur place, là. Puis j'avais fait sortir les rapports météo, puis j'avais fait sortir les rapports de pluie, puis tout ça. Et cette explication-là, elle tient pas la route. Il y a des journées, là, durant le mois de juillet, durant le mois de juillet, début août, là, lorsque le mur cognait, là, il y a des journée qui a fait 22 degrés, 21 oui. degrés à Québec. Là. Fait que, arrêtez de me... Lâchez-moi avec votre canicule. Là. Puis il y a des journées également où il y a eu des accumulations de pluie assez importantes. Là. Et, principalement au début du mois d'août, il y a eu plusieurs journées de pluie et ça n'a jamais empêché le mur de cogner. Donc ça, cette explication-là, encore une fois, je ne dis pas que c'est un fantôme, là, mais je te dis que l'explication du tassement de sol provoqué par la canicule et l'absence de pluie, ça ne tient pas la route. Donc on avait fait venir des gens de Gaz Métropolitain, des ingénieurs en bâtiment. Il y a même un moment donné qu'on avait défait le mur, hein, le mur au premier étage, entre l'appartement de Mme Cochrane et Mme Sanschagrin, on avait défait le mur. Et malgré que le mur ait été défait, donc il y avait un des côtés du mur qui était littéralement à nu, donc on voyait les... Pour utiliser un langage bien de chez nous, on voyait 2x4 là, dans le mur. Hein. Le mur est enlevé, donc on voyait la structure, les 2x4, et ça n'a jamais empêché le mur de cogner. C'était même très spectaculaire, parce que quand le mur cognait, on voyait toute la structure de bois qui bougeait. Et les gens peut-être ont en mémoire, à l'époque, il y avait Télé4, qui était la succursale de Québec du groupe TVA. On avait envoyé un journaliste sur place. Il y a une scène qui est mémorable parce que, bon, il y a un moment donné, il est dans l'appartement, il discute avec Mme Cochrane, on voit derrière Mme Cochrane le mur qui est ouvert, et là, il lui pose comme question, il dit, « Bon, vous dites, madame, que depuis quelques jours, votre mur cogne, ça ressemble à quoi? » Et comme il pose la question, on voit, là, en plein dans le champ de la caméra, là, on voit le mur bouger. Deux coups, là, bang, bang. Et là, Mme Cochrane, presque le sourire aux lèvres, elle lui dit, ben, ça cogne ça, exactement hein? comme ça, tu sais. Et ensuite, alors que Mme Cochrane n'est plus dans le champ de la caméra, mais que le caméraman qui se promène dans l'appartement et qu'il fait ce qu'on appelle dans le langage télévisuel du stock shot, donc il filme le mur, ben, alors qu'il filme le mur, on le voit à nouveau bouger devant la caméra, là, à 3 ou 4 reprises. Donc, ce sont des images excessivement spectaculaires. Et, dans le cas, si on accepte que c'est un phénomène de poltergeist ou quoi que ce soit du genre, c'est rarissime qu'on réussisse à filmer sur le vif une manifestation comme celle-là. À un moment donné, donc moi j'y suis avec M. Dubé, on se rend sur place. C'est dans les derniers jours là, avant que l'édifice va être évacué. Et je discute avec Mme Cochrane, puis là, elle me dit, bon, ben ça cogne, puis accotez-vous sur le mur, vous allez voir, ça frappe fort. Et quand je me suis accoté sur le mur... Écoute, j'ai eu l'impression d'avoir été plaqué, là, comme un joueur de football.
À ce point-là,
j'ai reculé, okay. J'ai reculé d'un pas ou deux. J'ai dit, tabarnouche, là. On pouvait pas résister. Le choc était très important. Et éventuellement, après la visite de M. Dubé, là, alors que j'étais là, après cette visite, M. Dubé a fait un rapport et il a demandé à ce que la bâtisse soit évacuée. Et elle a été évacuée effectivement. Donc on est à ce moment-là, je pense, les premières semaines d'août, le bâtiment est évacué. C'est la police de Beauport qui va la faire évacuer. Je me rappelle, je pense encore l'agent Marien, Robert Marien de mémoire. Écoute, je te raconte ça fait une trentaine d'années. Robert Marien, je crois qu'il était le policier qui avait fait évacuer la bâtisse. Et les locataires, il y avait Mme Cochrane, Mme Sanschagrin, je pense également qu'il y avait une dame qui s'appelait Mme Desbiens. Et on me disait, je me rappelle plus si c'est Mme Sanschagrin ou Mme Cochrane, ils me disaient que quand ils ont évacué la bâtisse, elle avait placé sur un des calorifères, parce qu'il y avait un calorifère sur le mur mitoyen, elle avait placé des petits bibelots en porcelaine. Et donc, dans les premiers jours après l'évacuation, Ils sont logés à l'hôtel ou chez des parents qui habitaient Beauport. Et elle me disait que quand elle retournait dans l'appartement les premiers jours pour aller chercher soit des vêtements, soit chercher leur courrier, les petites statuettes, les petits bibelots étaient tombés. Ce qui montrait que le mur avait beaucoup cogné au cours des dernières heures. Et puis, après leur départ, je dirais peut-être 4 ou 5 jours après leur départ, là, elle me dit, à un moment donné, un matin, on est arrivé, puis là, ben, sur les 7 petits bibelots en porcelaine, il n'y en avait seulement que 3 qui étaient tombés. Et puis, le surlendemain, il n'y en avait plus aucun. Donc, le phénomène s'était arrêté. Donc, ultimement, quelle que soit ta position, sceptique ou croyant, le temps va te donner raison, puisque les manifestations se sont arrêtées et on n'a jamais trouvé officiellement une explication.
Ah oui.
Ça avait commencé subitement, ça a perduré même lorsqu'il n'y avait plus personne, quand il n'y avait plus de locataires dans la maison, ça continuait de cogner. Donc, ce qui montre que ça ne peut pas être une supercherie orchestrée par un des locataires, parce que même quand il y avait personne dans la maison, ça cognait quand même.
Oui.
Et d'ailleurs, l'image tournée par TVA montre bien qu'il n'y a pas une supercherie. Là. Ça cogne devant la caméra, puis on voit bien qu'il n'y a personne, il n'y a pas de mécanisme, il n'y a pas rien. Et puis à un moment donné, moi, alors que j'y étais, on avait placé des gens dans l'appartement. Il y avait comme M. Dubé qui était dans l'appartement de Mme Desbiens ou Mme Sans-Chagrin, je ne me rappelle plus trop, écoute, 30 ans en arrière. Et Madame Cochrane, et donc il y avait des gens de chaque côté du mur, et le mur cognait. Donc on pouvait constater qu'on soit dans un appartement ou l'autre, on voyait qu'il y avait personne qui cognait sur le mur. Le mur bougeait de lui-même. T'sais. Et ça, on n'a jamais trouvé l'explication de ça. Et je comprends que ça a marqué, parce que moi-même, à l'époque, ça m'avait marqué. J'ai écrit sur le sujet dans un ou deux de mes livres. J'ai raconté cette histoire-là. J'ai pris des photos à l'époque. C'est vraiment une histoire qui est extraordinaire.
Oui.
L'autre histoire dont je te parle, ben là...
c'est un peu de ma faute.
Ouais, c'est un peu de ta faute, mais on va prendre une pause. Puis si tu veux, au retour, ben, je te raconterai l'histoire de la Dame Blanche. C'est une belle nouvelle pour les habitants de Québec.
Absolument. Donc, restez là. Au retour, on va parler de la Dame Blanche, entre autres. Et puis, ben, c'est ça, on revient. Bougez pas, vous êtes dans les Radio X-Files sur les ondes de Choix 98.1 Radio X.
Radio X-Files.
Avec Christian Page.
Radio X. Couture dans le mid.
Nous aurons un tramway, Pierre.
Ben là, le tramway, moi, je vais y croire, mais qui arrive. Parce que là, je regarde l'argent volé. L'argent est où, là? C'est le fédéral, hein? Pour l'instant, ils ont promis un montant d'argent qui...
1,2 milliard.
Ben, ça suffit pas. Il manque du cash pas mal, là.
Pas mal.
C'est-tu le provincial qui va mettre 6-7 milliards là-dedans?
Ben, la ville aussi.
Moi, le tramway, je veux bien, mais il manque d'argent. Puis les dépassements de coûts, qui va les assumer?
Couture dans le mid.
Lundi au vendredi, 10h.
Radio X.
Présenté par Céramique L'Entrepôt. En ce moment, profitez de gros rabais comme du vinyle click à 1,79 $ le pied carré et du plancher flottant à 99 sous le pied carré. Céramique L'Entrepôt, 850 Pierre Bertrand.
Tardy Métal engage. Assembleur, soudeur, journalier, opérateur de pont roulant, jour et soir. Salaire compétitif, gym, assurance, réa collectif, tout y est. Imaginez-vous chez nous. Postulez sur tardymetal.com ou envoyez votre CV à rh@sm-inc.com.
Et voilà les gars, vos gratteurs.
Hein, des gratteurs? Tiens, gratte. Des frites? Mais j'ai rien commandé, moi.
Un frigo Bud?
Les gars, je viens de gagner une escapade de hockey VIP à Montréal.
Du 6 octobre au 2 novembre chez Dooley's, en collaboration avec Budweiser, c'est 100% de chance de gratter et une chance sur deux de gagner.
Ça, c'est l'heureux gratteux, les gars.
S'amuser, boire et manger.
Et plus, aucun achat requis. Détails sur dooleysquebec.com.
Mes amis, il est temps de dire un dernier adieu aux anciennes règles de tri. Elles emportent dans le deuil tous nos doutes devant le bac de récupération.
C'est vrai que c'était mélangeant.
Maintenant, la règle, c'est contenant, emballage, imprimé.
Donc, je peux mettre ma bouteille d'huile d'olive?
Oui, contenant.
Mon papier d'aluminium?
Oui, emballage.
Les lettres d'amour de mon ex?
Imprimé.
Dites adieu aux anciennes règles de tri. La seule à retenir, c'est contenant, emballage, imprimé. Un message de Bac Impact, la nouvelle référence en collecte sélective.
Ici Martin Ma. Avec son programme Imbattable, Maxi égale les bas prix des autres épiceries sur présentation d'une preuve. Donc, techniquement... leurs bas prix sont aussi nos bas prix. Alors cette semaine, leur pub dans votre tête devrait sonner comme ça.
C'est les prix fou chez Maxi. Profitez de bas prix sur les fruits et légumes croquants partout chez
Maxi.
Sans oublier nos délicieuses coupes de viande. Pour de la qualité à bas prix,
Maxi,
c'est la place.
Ben oui, Maxi. imbattable.
Les conditions s'appliquent. Détails en magasin.
Yeah. Quand on roule dans un milieu de vie, il y a du monde à pied, en auto, en vélo, en camion. Bref, c'est important d'adapter sa conduite.
Effectivement, Madame Levac. C'est pourquoi je ralentis, je reste attentive et j'évite les distractions telles que le téléphone cellulaire ou l'écran tactile de mon véhicule.
Wow, réponse parfaite. Avec un Madame Levac en plus, coudon, avez-vous des défauts, vous?
Il m'arrive d'oublier les noms, Madame Lévesque.
Ah, pas grave. Vous protégez les usagers vulnérables dans les milieux de vie.
Merci, Madame Laflac.
Ah, ben oui, toi, c'est étonnant. La sécurité routière, j'embarque. Un message du gouvernement du Québec.
Faites-en plus cet automne avec les tracteurs compacts et les accessoires Kubota. Pour un temps limité, obtenez du financement allant jusqu'à 0 % sur des modèles sélectionnés. Visitez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeux de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance. Ou jouez à la roulette, au blackjack et bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Un prix spécial qui vaut le détour chez Mondou. La litière Otterlock, format 12 kg, est à seulement $19,99, mais pour 4 jours seulement. Dépêchez-vous, l'offre se termine le 26 octobre, en magasin ou au mondou.com.
Vous connaissez Osborne? Pas Osborne! Les poêles et foyers Osborne. Ils sont fabriqués à Saint-Augustin et ils sont à rabais chez Nauréa Foyer Napère. Par exemple, le Osborne 3300 qui chauffe 2300 pieds carrés, normalement vendu 4000 $ et réduit à 2899 $. Il y a aussi le Osborne Everest qui chauffe 2500 pieds carrés, normalement vendu 6000 $ réduit à 3999 $. Détail chez Nauréa Foyer Napère à Sainte-Marie et Nauréa Foyer Napère signature sur Pierre Bertrand à Québec.
Monette Express, les déménageurs qui déménagent. Un déménagement longue distance, commercial ou résidentiel, Monette est là pour vous. Pour un service clé en main, emballage, déballage ou entreposage, c'est Monette Express. Du transport de matériel électronique ou de machinerie lourde, il n'y a rien à notre épreuve. Depuis plus de 20 ans, Monette Express déménage des particuliers et des entreprises de la province de Québec. Vous déménagez? Un seul numéro à retenir. 418-840-1234. Monette Express, les déménageurs qui déménagent.
Entendu à la Fromagerie Victoria, un restaurant qui offre du fromage en grains frais du jour, tous les jours. Fromagerie Victoria, notre fromage emmène large. Arrêtez goûter. Entendu à la Fromagerie Victoria, un restaurant qui offre du fromage en grains frais du jour, tous les jours.
Wow, as-tu vu la montagne de fromage? Hey, check ça, man, c'est ma poutine en dessous.
Fromagerie Victoria, notre fromage emmène large. Arrêtez goûter.
Retrouvez le plaisir de sourire en toute confiance. Au Centre dentaire Cartier, anciennement Girard et Martineau, l'implantologie dentaire, on s'y connaît. Contactez-nous dès maintenant pour obtenir une consultation sans frais et découvrir nos solutions sans greffe osseuse. Nous offrons également des soins dentaires complets, du nettoyage à la dentisterie esthétique pour toute la famille. Centre dentaire Cartier, c'est une équipe humaine et professionnelle qui saura être disponible et à l'écoute de vos besoins. Alcartier Québec. Allez!
Procurez-vous votre forfait pour le Tailgate Radio X.
Radio X.
Du Rouge et Or Football.
Football!
Pour le premier match des séries éliminatoires le 1er novembre prochain. Let's go! Pour 49 $ plus taxes, le forfait comprend ton billet pour le match, une bière de la microbrasserie de la cour arrière, une pointe de pizza de Stratos Pizzeria, un hot dog offert par Rêve Sportif, un demi-sandwich smoked meat de Brin Smoked Meat, un morceau de poulet frit Dixili, une bouchée sucrée d'Homer's la boîte à beignes et une dégustation de la distillerie Stadacone. Achetez votre forfait au boutique.radiox.com. Faites vite! Quantité limitée. Une collaboration anti-rouille Crown. Trouve le centre le plus près au crown.com.
Radio X. Radio X Files.
Avec Christian Page.
Radio X.
On est de retour dans les Radio X-Files. On parlait juste avant la pause du fameux mystère là, de la maison à Beauport où le mur frappait et que ben, jusqu'à aujourd'hui, Christian, on n'a toujours pas de cause ou de réponse face à ça.
Non, on n'a pas trouvé d'explication. Mais comme les manifestations se sont arrêtées d'elles-mêmes, elles avaient débuté de manière spontanée. Il n'y a pas eu non plus, hein, l'édifice existe toujours aujourd'hui, on est sur la rue Monseigneur Gautier. L'édifice n'a pas beaucoup changé, hein. On a changé la couleur, les balcons, mais bon, pour quelqu'un qui connaît l'endroit, l'édifice garde les mêmes lignes là, au niveau de la silhouette du bâtiment. Et il n'y a pas eu de modification importante à l'édifice. Et ouais, c'était durant l'été en question, ouais, où il y a eu ces manifestations. C'était le seul édifice qui était atteint de ces manifestations. Donc, on est au milieu d'une rue, là. C'est pas un endroit isolé avec une maison au bout d'un champ, là. C'est une maison en plein milieu d'une rue. Donc, il y a des bâtiments en face, il y a des bâtiments de chaque côté. Et aucun des bâtiments autour n'ont été altérés de quoi que ce soit ou ont connu quelques manifestations. Parce que, bon, des gens ont dit, est-ce que ça pourrait être un dynamitage quelque part dans une carrière pas très loin, mais tous les bâtiments auraient tremblé à ce moment-là. Il y aurait eu... Ce n'est que ça ce bâtiment-là. Ce n'était... Mur, ouais. Non, et c'était que le mur mitoyen. Je me rappelle également un dénommé M. Casey, je crois. Écoute, je te raconte ça, ça fait 30 ans, 35 ans. Il y avait un M. Casey de mémoire qui travaillait pour Gaz Métropolitain, qui était allé là quelques jours avant ma visite. Et... j'ai eu la chance de le rencontrer par la suite. Et Casey, M. Casey me racontait qu'à un moment donné, il est au sous-sol, hein, parce qu'on se dit, est-ce qu'il y a du gaz? Hein? Une des hypothèses, c'est qu'il y avait du gaz qui s'accumulait dans les parois, dans les murs. Et à un moment donné, lorsqu'il y avait un espèce trop plein de gaz, il y avait cette espèce de relâchement qui provoquait un claquement dans le mur mitoyen. Donc, M. Casey est là et il me raconte qu'il est, au sous-sol. Et il est juste en dessous du mur mitoyen. Il a ses équipements, tout ça, pour essayer de voir s'il y a des émanations de gaz. Et il entend là, plusieurs coups qui sont frappés juste au-dessus de lui. Il me disait, c'était étonnant parce que le mur a cogné, puis il avait quasiment l'impression qu'il aurait pu toucher l'endroit où le coup avait été parti. Ouais. Là, tu sais, là, ça l'avait impressionné, ce coup-là dans le mur. Bref, toutes les gens qui ont passé par ces appartements, parce qu'il y avait 4 logements dans ce bâtiment, ils ont tous été quand même un peu impressionnés. Mais
j'imagine.
T'as tout à fait raison. Hein. Comme les coups avaient débuté de manière spontanée, les coups se sont arrêtés de manière spontanée, on ne saura jamais quelle était la cause réelle. Hein? Si tu veux croire que c'est un fantôme ou un poltergeist, libre à toi. Si tu veux croire qu'il devait y avoir des conditions climatiques ou des conditions géographiques ou géologiques qui auraient pu entraîner ces coups-là ou un quelconque phénomène naturel qu'on n'a pas pensé à l'époque, toutes les avenues sont possibles.
Est-ce parce que la télékinésie? Quelque chose, ouais, du genre.
C'est, techniquement, on ne le sait pas. C'est sûr que tu sais, tu mentionnes la télékinésie. C'est vrai que pour ceux qui veulent croire à l'idée d'un poltergeist, dans les cas de poltergeist, ce que la recherche en parapsychologie nous montre, c'est que dans bien des cas, ces phénomènes de poltergeist débutent de manière spontanée, bon, coup frappé dans les murs, ce qui était exactement le cas ici. Et généralement, on va retrouver au centre de ces manifestations des gens. On a souvent décrit ces gens comme des adolescents ou des adolescentes ou des préadolescents, mais ça, c'est un mythe. Hein. Les archives montrent qu'on a aussi des jeunes adultes, c'est pas toujours des adolescents ou des adolescentes. Mais ce qui caractérise toutefois ces personnes qui sont au centre des manifestations, ce sont souvent des gens qui ont des troubles émotifs. Ce ne sont pas eux qui frappent dans le mur, mais c'est plutôt comme si la nature, la matière autour d'eux se mettait en résonance avec leurs émotions.
Ouf, okay.
On pourrait donner, par exemple, donc une espèce... Si on utilise le langage des parapsychologues, hein, c'est une forme de télékinésie involontaire. Un peu comme à l'image de l'héroïne Carrie White,
oui,
dans le roman
dit, ouais.
Carrie de Stephen King et dans le film, l'adaptation du film. Au tout début, avant que Carrie commence à maîtriser ces éléments-là, lorsque les objets commencent à bouger, lorsqu'elle rencontre, par exemple, elle est dans le bureau du directeur, puis il y a un cendrier qui s'envole, etc., c'est pas elle qui physiquement lance le cendrier, mais c'est un peu comme si le cendrier était une réaction à ses émotions à ce moment-là. Donc, les gens qui prétendent qu'il s'agit de phénomènes de poltergeist, ben, il pourrait peut-être s'agir de phénomènes comme ceux-là. Quoique, il faut quand même le mentionner, hein, le mot souvent qu'on utilise, c'est l'énergie psychique. Ben, l'énergie psychique, là, c'est comme de la poudre de perlimpinpin.
Ouais,
ça existe pas, là.
On l'a pas répertorié, là. Ouais.
Non, c'est un mot qu'on utilise parce que, à défaut d'avoir un mot mieux adapté, on va utiliser celui-là, mais il y a aucun appareil qui a jamais détecté l'énergie psychique, là, tu sais. Bon, faut être prudent avec ça.
Oui.
Et puis ensuite, ben, évidemment, si on revient sur le bon plancher des vaches, ben, tu as toutes les autres hypothèses d'ordre naturel qui pourraient être exploitables, mais les phénomènes n'ont pas été... La grosse faiblesse, en fait, dans l'histoire de la maison de Beaupin, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu une investigation rigoureuse. Tu comprends, on a fait venir des gens de gaz métropolitain, eux sont arrivés, puis on dit, bah, c'est pas du gaz. Après ça, il y a un autre qui est arrivé, puis dit, ah, ben, c'est pas un problème de structure. Mais tu sais, si on avait voulu aller au fin, trouver le fin mot de l'histoire, on aurait pu placer des caméras installées de manière 24 heures sur 24, on aurait pu faire des lectures de différents éléments, mettre des senseurs sur les... Parce qu'on voit, hein, dans les images de TVA, on voit les 2x4 qui bougent. Donc, essayer de comprendre quelle est la force qui peut faire bouger un 2x4 de cette manière. Non? Il y aurait plein de choses qu'on aurait pu faire, mais qui n'ont pas été faites. On reste donc aujourd'hui avec un beau mystère, un mystère qui continue de faire jaser beaucoup. T'sais. Parce que je dois t'avouer, à toutes les fois que je donne une conférence sur les histoires de fantômes, et principalement quand je suis dans la région de Québec, c'est une histoire qui revient continuellement, l'histoire de la maison hantée de Beauport. Mais l'autre histoire dont je voulais te parler... Qui s'adresse à la fois aux amateurs de mystère, mais également aux numismates. Et tu vas le comprendre, la monnaie royale canadienne vient de frapper une pièce de 20 $ en argent à l'image de la Dame Blanche des Chutes Montmorency. Donc ça, c'est une belle légende qui touche la région de Québec. C'est une légende, on se place bien, là. C'est une légende, donc on n'a pas de fait historique qui permet de la documenter outre mesure. Mais bon, la légende va dans à peu près comme suit. On raconte que, quelque part, on est à l'époque de la colonie, hein, à Québec, et puis en 1759... C'est un moment charnière. C'est les batailles qui vont se faire entre la colonie française et les troupes britanniques sous le contrôle du général James Wolfe. Et là, on raconte qu'en parallèle à cette guerre, en fait, ces combats, il y a un jeune couple, donc on a une certaine Mathilde et Louis. Donc, ne cherchez pas dans les archives Mathilde et Louis, là, vous n'en trouverez pas de traces, là. Mais on nous raconte que Mathilde et Louis, un couple de jeunes amoureux, s'étaient fiancés et comptaient se marier. Et puis, bon, tout était prêt pour le mariage. Mathilde avait même sa robe de mariée toute prête pour l'occasion. Et puis arrivent les combats de l'été de 1759. Il va se tenir à ce moment-là une bataille qu'on va appeler la bataille de Beauport, même si la bataille en question se tient au pied des chutes Montmorency. Et on raconte à ce moment-là que durant la bataille, Louis, qui avait été, selon certaines légendes, il s'est enrôlé dans l'armée, dans la milice française. Dans d'autres, on dit qu'il a été forcé d'aller combattre, mais néanmoins... Apparemment, ce fameux Louis se retrouve au pied des chutes Montmorency à combattre les troupes britanniques du général Wolfe et il est abattu. Donc, il va mourir sur le terrain. Et on raconte que là, Mathilde, épleurée, serait montée au haut des chutes après la bataille, serait montée en haut des chutes et aurait revêtu sa robe de mariée pour se jeter dans les eaux des chutes. Et ainsi, on raconte que depuis, parfois, lors des soirs de pleine lune, dans la bruine qui se forme au pied de l'écume qui se forme au pied de la chute, on peut voir le spectre d'une mariée, d'une femme en robe blanche, qui serait apparemment le spectre de Mathilde. Oh. Donc ça, c'est une belle légende. Ah, c'est la légende de la Dame Blanche des Chutes Montmorency. Et là, donc, la monnaie royale canadienne, c'est vraiment le fun pour les gens de Québec de voir que la monnaie royale canadienne, jusqu'à maintenant, elle avait fait dans les années passées des pièces de monnaie, elle avait frappé des pièces de monnaie dans une catégorie, une collection qui s'appelait le Canada hanté. Elle avait frappé des pièces, c'était généralement des pièces de 25 cents qui étaient frappées en argent avec une belle image qui représentait des histoires de fantômes. Donc, on a eu le fantôme de l'hôtel Fairmont là, à Banff. On a eu l'histoire du fantôme de l'ancienne prison d'Ottawa. Donc, des petites pièces de monnaie rondes qui avaient été frappées dans cette collection du Canada hanté. Et il y a quelques années également, le gouvernement, la monnaie royale canadienne, avait commencé à frapper des pièces de monnaie qui était plus ou moins rectangulaire, mais qui était vraiment magnifique parce que c'est des pièces rectangulaires qui étaient à l'image d'histoires d'OVNI. C'était essentiellement des histoires d'OVNI au rythme de une par année. Mais là, on parle ici de pièces de 20 $ en argent Et ce qui les caractérisait en particulier, c'est qu'elles avaient une espèce de double face, hein, dans le sens que l'image en question, si on l'éclairait avec de la lumière noire, là, black light, on voyait apparaître une autre image, hein, une espèce d'image fantomatique. Et donc, on a fait, je crois, 6 pièces ou 7 pièces sur les ovnis. Et quand on les éclairait, donc, on voyait apparaître des détails qu'on ne voyait pas à la lumière crue. Et là, donc, pour la première, on vient de faire la première pièce de ce qui va être visiblement une collection, non pas sur les ovnis, mais sur les histoires de fantômes canadiennes, dans le même sens, des pièces de 20 $ en argent, avec une image en black light, en lumière noire. Et la première pièce de la collection, c'est la Dame Blanche. Donc, je l'ai là devant moi, parce que je les ai toutes mes pièces, évidemment,
ah oui?
Un collectionneur
okay.
comme moi, oui. Et c'est une très, très belle pièce. Donc, quand on la regarde à la lumière ordinaire, là, donc on voit, c'est une image des chutes Montmorency. Et si on l'éclaire avec une black light, alors là, on voit apparaître dans l'écume au bout de la chute, on voit apparaître une espèce
la
de remous
oui.
qui prend la forme de cette dame blanche, de ce fantôme. Donc, avis aux amateurs de mystère, mais également avis aux numismates, hein, collectionneurs de pièces de monnaie plus rares. Bien, évidemment, ce sont des pièces qui sont frappés avec un nombre très limité et qui peuvent être un assez bon investissement. Là. Moi, je n'ai pas acheté ces pièces dans le but de les revendre ou en fonction de leur valeur éventuellement monétaire, mais simplement pour te donner un exemple, la première pièce qui avait été frappée sur les ovnis, qui était d'ailleurs la seule pièce qui avait une forme un peu étrange. Toutes les autres pièces avaient un peu la forme un peu d'un rectangle, alors que celle-là, la première pièce, avait ressemblé un peu à une goutte d'eau, ou, si tu veux, à une tête d'extraterrestre. Tu vois un peu la silhouette.
Oui,
là. Et cette première pièce, donc, elle reprenait un événement, probablement l'événement OVNI le plus important de toute l'histoire du Canada, qui nous ramène à mai 1967, donc un prospecteur qui disait avoir vu un OVNI dans le parc de Whitechell, qui se trouve près de Falcon Lake au Manitoba, une histoire qu'on appelle l'affaire Mikalak. Et donc, cette pièce était vraiment magnifique. Au moment de sa mise en marché, la pièce de 20 $ se vendait, et c'est à peu près la même chose avec la pièce de la Dame Blanche. La valeur nominale de la pièce, c'est 20 $ mais la pièce, comme c'est une pièce de collection, elle est disponible. Elle était disponible parce que déjà, j'ai vu que le prix avait augmenté, là, mais au moment de sa mise en marché, là, il y a quelques jours, la pièce à la monnaie royale canadienne, on pouvait la procurer pour grosso modo 189 $ là, grosso modo à quelques cents près. Là. Et là, aujourd'hui, elle a dépassé le cap du 200 $ là,
okay. Bon. Wow.
Mais la pièce de... Si je m'en reviens à ma pièce de monnaie de Stéphane Mikalak, là, des ovnis, je pense que la première, je pense qu'elle a été émise, cette pièce-là, en 2016 ou 2017. Son prix de vente original était, et là je te parle de mémoire, là, c'était 139 $ je crois. Et aujourd'hui, si tu vas sur le marché des numismates, cette même pièce se vend quelque chose comme 4000 ou 5000 $ Donc, tu vois, payer 139 $ en 2017 et aujourd'hui, elle se vend 5000 $ ça a été quand même un bon investissement. Là, tu t'es procuré la pièce, tu sais.
Absolument.
Voilà pour ceux qui s'intéressent à l'étrange, puis ceux également qui veulent faire un petit investissement pour peut-être se lancer dans une collection de pièces de monnaie, bien, pourquoi pas débuter avec cette magnifique pièce de la Dame Blanche.
Très belle.
Montmorency.
J'ai
ouais,
sous
ouais,
les yeux, là, sur le site de la
monnaie royale,
exactement.
Un petit vidéo où on la voit tourner. Là. Je ne sais pas si c'est ce vidéo-là que tu as pu voir. Je n'ai bon,
pas bref. Lancé la vidéo, mais je vois là, l'espèce d'image bleutée.
Du fantôme,
là.
C'est
ouais,
ça. Ouais. C'est une très, très belle pièce. Écoute, le temps file, il nous reste 5-6 minutes. Écoute, je voulais te parler d'une publication qui est intéressante. On est toujours dans notre rang où je pense que les gens ont compris que notre thématique d'aujourd'hui, c'était le parapsychologie fantôme.
Absolument.
Et ce genre de truc. Et il y a une nouvelle publication qui a attiré mon attention cette semaine. C'est sur les expériences de mort imminente. Bon, les expériences de mort imminente, pour rappeler aux gens, c'est ces expériences où des gens ont frôlé la mort, et même ont plus que frôlé la mort, ils sont techniquement morts pendant un court instant. généralement par un arrêt cardiaque avant d'être ramené à la vie. Parce que la mort, faut-il le rappeler, c'est un processus, hein, c'est un processus qui va s'étirer entre quelques secondes et quelques minutes. Et autrefois, c'était un peu définitif, c'était un processus qui pouvait pas être renversé. Aujourd'hui, grâce à la science, les défibrillateurs et tout le reste, si on est par exemple pris en charge rapidement, le processus peut être inversé. Et le phénomène, en fait, nous a été connu, le phénomène est vieux comme le monde, c'est-à-dire qu'on a des chroniques anciennes. J'ai en tête, par exemple, une chronique romaine où un soldat romain, un légionnaire romain, raconte qu'il a été frappé sur le terrain, le champ de bataille, il est tombé, trucidé, et pendant un moment, il raconte dans ses mémoires qu'il survolait le champ de bataille, puis il pouvait voir ses compagnons qui étaient là, morts, avant de réintégrer son corps. Donc, il décrit là, très clairement une expérience de mort imminente. Les expériences de mort imminente se caractérisent un peu comme celle-là. Au moment, dans cette courte période où l'individu est mort, où il est enclenché, il est dans ce processus de mort, bon, les gens disent il y a une espèce de sentiment de sortie hors corps. Parfois, ça va être accompagné d'une espèce de tunnel de lumière. Ils vont rencontrer, à travers ce voyage un peu mystique et ésotérique, ils vont rencontrer des gens, des proches, des défunts, qu'ils vont voir, leur parler. Et ensuite, ils vont souvent voir leur vie en accéléré avant de retourner, de regagner leur enveloppe corporelle. Donc, grosso modo, c'est ça l'histoire de mort imminente. Je me prononcerai pas est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, est-ce que c'est une simple allégorie du cerveau, là. On se fera une émission à un moment donné peut-être sur le sujet, là, mais néanmoins, l'expérience de mort imminente, c'est celle-là. Quelle que soit la cause, l'expérience de mort imminente, quelle que soit ta religion, elle est la même pour tout le monde. Donc, si t'es d'obédience musulmane, certains diront, ben, j'ai vu Allah. Si t'es d'obédience chrétienne, les gens vont dire, j'ai vu un être de lumière qui était Jésus. Les mots changent, mais l'expérience reste la même pour tout le monde, quelle que soit notre obédience, quelle que soit la croyance. Donc, et bien sûr, le débat, c'est est-ce que c'est une expérience réellement d'ordre spirituel et mystique, ou est-ce que c'est simplement des mécanismes qui sont mis en place par notre cerveau pour nous rendre plus facile l'instant de la mort. Donc, il y a tout un débat autour de ça. Quoi qu'il en soit, l'article dont je voulais te parler, c'est un article qui a été publié par l'Université de la Virginie. L'Université de la Virginie, qui, faut-il le dire, est un peu une tête de file dans ce type de recherche sur les expériences de mort imminente. Il y a un laboratoire, justement, de recherche en sciences cognitives qui s'intéresse particulièrement à ces phénomènes de mort imminente. Et ils ont publié tout récemment un article, en fait c'était le 14 octobre que l'article a été publié, principalement sous la plume du docteur Bruce Grayson, qui est professeur émérite au département de psychiatrie et de neurosciences de l'université, et dont il parle de ses expériences qu'il faut-il le rappeler, hein, ne se discutaient pas de manière ouverte avant le milieu des années 70. Hein. Les gens qui avaient vécu ce type d'expérience-là n'en parlaient pas, mais au milieu des années 70 va paraître un livre sous la plume de Raymond Maudit qui s'appelle « La mort après la mort » ou « La mort après la vie » ou « La vie après la mort », oui. Peu importe. Et ce livre-là va connaître un immense succès de librairie. Et à partir de là, on a comme démocratisé l'idée que l'on peut parler de ces histoires-là. Alors que dans d'autres régions du monde, je pense par exemple en Asie, par exemple, où il y a beaucoup de l'hindouisme, le bouddhisme, les gens en parlent ouvertement. On en parlait de ces expériences-là. Mais dans notre monde occidental chrétien, c'était pas bien vu de parler de ça. Donc maintenant, on en parle ouvertement. Et donc cet article-là, puis là, bon, le temps file, donc on décantera pas tout l'article, mais on rappelle encore une fois des chiffres, entre 20 et 30% des gens qui vont vivre des arrêts cardiaques dans des hôpitaux. Hein, parce que maintenant, grâce à la surveillance qu'on a dans les hôpitaux, là, on peut mieux documenter et aussi intervenir plus rapidement. Donc, il y a à peu près de 10 à 30% des gens qui vont vivre des arrêts cardiaques en centre hospitalier qui vont avoir un discours d'expérience de mort imminente. Hein. Donc, ils ont vécu cette expérience-là. Ça ne veut pas dire que les autres ne la vivent pas. Ça se peut que c'est un peu comme rêver. Il y a des gens qui vont dire « Moi, je rêve jamais. » C'est pas vrai. Ils rêvent toutes les nuits comme n'importe qui, mais ils ne s'en rappellent jamais. Donc, c'est un peu la même chose ici. Les gens qui racontent des expériences de mort imminente, c'est de 10 à 30 % des gens. Peut-être que les autres aussi le vivent, mais ils ne s'en rappellent pas. Mais cet article, ce qu'il est très, là où il a, à mon avis, il apporte une vision un peu différente. c'est qu'il s'est intéressé beaucoup sur l'impact que l'expérience, les expériences de mort imminente ont sur les gens. Et moi, j'en ai rencontré, j'ai de mes amis, un ami entre autres très proche, qui en a vécu une expérience de mort imminente et ça l'a beaucoup bouleversé.
Ah oui? OK.
Ça l'a transformé du tout au tout. Hein. Donc, lui qui était très matérialiste avant, aucune spiritualité, après ça, il s'est lancé un peu. Il a pas perdu les pédales, là. Il reste un super bon gars. Mais on voit qu'il est beaucoup plus... Il est devenu un peu plus flower power, là, si tu vois un peu ce que je veux dire.
Cette expérience.
Ouais, il était un peu plus... c'est ça. Et ce que l'étude montre, en fait, et c'est assez surprenant, c'est que 70% des gens qui vont vivre des expériences de mort imminente vont entreprendre une démarche, on pourrait presque dire un changement de religion ou un changement de spiritualité. Hein. Donc, on voit bien à quel point l'expérience, qu'elle soit une illusion du cerveau ou qu'elle soit bien réelle, on voit bien quand même l'impact qu'elle a sur les gens. Mais ce que l'étude montre et met en exergue, c'est que 64% des gens qui ont vécu une expérience de mort imminente ont de la difficulté au départ à l'assimiler. Et ils n'ont pas de ressources vers qui se tourner. Donc, si toi, par exemple, je te souhaite pas, mais imagine, tu fais un arrêt cardiaque à l'hôpital, on te ramène et tu as vécu cette expérience-là, tu risques d'être troublé. Hein? La preuve, 70% des gens vont faire une démarche d'un caractère spirituel ou ésotérique par rapport à ça. Donc, on voit que ça a un fort impact sur les individus. Mais si toi, tu as envie d'en parler de ça, à qui tu vas en parler? Qu'est-ce que tu vas faire? Et on constate, cette étude-là montre, on a fait des démarches auprès des médecins et des urgentologues, et ils ne sont pas préparés à faire face à ce type de récit. Donc, et ce que l'étude montre, c'est qu'on devrait davantage préparer les urgentologues ou les médecins traitants à la possibilité que certains de leurs patients aient éventuellement ce discours-là. Et s'ils ont ce discours-là, bien, le favoriser, encourager les gens à en parler, sans se prononcer. Hein. Encore une fois, ici, le débat n'est pas de dire « C'est-tu réellement une expérience mystique ou est-ce que c'est simplement une illusion du cerveau? » On n'est pas dans ce débat-là. Mais simplement de dire « Les gens vivent ces expériences-là et ça les trouble. » Et souvent, ces gens-là, au moment où ils ont vécu cette expérience-là, ils ont besoin d'en parler, ils ont besoin d'être réconfortés et ils ne trouvent pas les ressources dans le milieu médical pour répondre à ces demandes-là. Et c'est ce que l'étude de l'Université de Virginie montre, c'est qu'il devrait y avoir une formation plus adéquate pour préparer les médecins à accueillir davantage ce type d'expérience, qu'elle repose sur une simple chimie du cerveau ou qu'elle repose sur réellement une forme de mysticisme quelconque.
Très intéressant, encore une fois, Christian Page. C'est tout le temps qu'on a pour cette soirée.
Oui, encore une fois, on a manqué de temps, mais bon.
Ah, ça, c'est l'histoire de la radio.
On se reprendra.
Mais on va se reprendre vendredi prochain et ce sera le soir de l'Halloween.
Oui, le soir de l'Halloween. Donc, je vais essayer de nous concocter une petite émission spéciale pour l'Halloween.
Super. Bon, mais Christian, il me reste à te souhaiter un bon week-end. Et à la semaine prochaine.
Ça marche.
Merci.
À plus. Ciao.
Vous étiez dans les Radio X-Files. Bougez pas, au retour de la pause, c'est la sexploratrice qui s'installe.
Radio X-Files. Avec Christian Page.
Radio X.
C'est pas un problème, l'argent. Là.
Pierre Couture.
Ça roule.
Suivez les chroniques de Pierre Couture.
Ça roule.
À Radio X.
Radio X.
La chronique de Pierre Couture, présentée par Norea Foyer Napère. Les poêles et foyers Osborne, fabriqués à Saint-Augustin, sont à rabais et vous économisez des milliers de dollars. Norea Foyer Napère à Sainte-Marie et à Québec.
Capsule.
Radio X.
Ajoutez un petit plus à votre vie intime avec Sensation Plus. Faites vos achats en ligne en toute discrétion et surprenez votre partenaire avec nos huiles, jouets, lingerie et plus. Partagez le plaisir. Sensationplus.com, livraison rapide et discrète. Chez Brandsource JGR à Laurier Station, à l'achat de deux électroménagers de cuisine de marque Maytag, Whirlpool ou KitchenAid, on paie l'équivalent des taxes pour vous. Brandsource JGR à Laurier Station à 20 minutes des ponts, votre spécialiste en électroménager sur la rive sud. As-tu envie d'un moment
Extraordinaire! File chez Kia Lévis. Essayez le tout nouveau EV9 100% électrique. Jusqu'à 491 km d'autonomie, un design à couper le souffle et le sourire garanti dès que tu vas appuyer sur Start. Chez Kia Lévis, viens vivre l'expérience EV9 dès aujourd'hui. iSaute, c'est plus que des trampolines. C'est du fun, différent et stimulant. Les nouvelles attractions Parc Lunaire et Turbulence vous attendent. Devenez membre avec accès illimité pour $39.99 par mois. Et fêtez l'anniversaire de rêve de votre enfant chez nous, on s'occupe de tout. iSaute.ca.
Un prix spécial qui vaut le détour chez Mondou. La litière Otterlock, format 12 kg, est à seulement $19.99, mais pour 4 jours seulement. Dépêchez-vous, l'offre se termine le 26 octobre. En magasin ou au Mondou.com.
Vous n'avez pas choisi qu'un cancer ou une maladie rare débarque dans votre vie. Mais choisir sa pharmacie, c'est un gros plus. La pharmacie d'expertise La Rivière et Massicotte. lmpharmacienne.com. Seuls les pharmaciens sont responsables de la pratique de la pharmacie.
Cette semaine chez Métro, les prix tombent comme les feuilles des arbres. C'est le temps d'économiser sur plus de 7500 produits en magasin et en ligne. Le rôti français au format économique est à 6,88 la livre ou 15,17 le kilo. Le sac de 4 livres de pommes est à 3,96, soit 99 sous la livre. Et la pizza croûte mince Ristorante est à 3,47. Retrouvez toute la circulaire complète en ligne au métro.ca. Des conditions s'appliquent. Détails en magasin.
Voyage Aquaterra Lévis, Québec et Sainte-Marie est la référence pour parcourir le monde. Itinéraire personnalisé, croisière et destination soleil. Notre force est de concrétiser le voyage dont vous rêvez. La haute saison est à nos portes. Prenez rendez-vous. 418 741 3437.
Vous rêvez d'un VR depuis longtemps? Du 30 octobre au 2 novembre, la Foire du VR débarque à Expocité. Près de 200 roulottes et motorisés de toutes sortes réunis sous un même toit avec les plus bas prix de l'année.